Germaine de Staël, Delphine, partie 5. Lettres 8 à 14 comprises. Lettre 8. Delphine à Mademoiselle d'Albémar, de l'abbaye du Paradis, ce 3 janvier 1792. Enfin, je suis ici. Je ne sais si je dois m'applaudir d'avoir quitté Zurich sans avoir vu M. de Valorbe. Madame de Serlèbe, au moins, m'a promis de lui exprimer mes regrets, de lui offrir tous les services qui sont en ma puissance et que je serai si empressée de lui rendre. Madame de Serlèbe ne m'a point paru refroidie pour moi et j'en ai joui, car je ne la vois jamais sans que mon amitié pour elle ne s'augmente. Elle connaît intimement une des religieuses du couvent où je suis, mais elle n'aime pas Madame de Ternant. Elle prétend que c'est une personne égoïste et hautaine, d'un esprit étroit et d'un cœur dur, et qu'elle n'a eu d'autre motif pour quitter le monde que le chagrin de n'être plus belle. « Vous ne savez pas, me disait Madame de Serlèbe, combien une vie frivole dessèche l'âme. » Madame de Ternant avait des enfants. Elle ne s'en est pas fait aimer. Elle avait de l'esprit naturel, elle l'a si peu cultivé que son entretien est souvent stérile. Maintenant qu'elle est forcée de renoncer à tous les genres de conversation pour lesquels il faut nécessairement un joli visage, elle s'est retirée dans un couvent, afin d'exercer encore de l'empire par sa volonté quand ses agréments ne captivent plus personne. Un fond de personnalité très ferme et très suivi s'est montré tout à coup en elle quand sa beauté n'a plus attiré les hommages. Elle n'est dans la réalité ni très sévère ni très religieuse, mais elle a pris de tout cela ce qu'il faut pour avoir le droit de commander aux autres. L'amour-propre lui a fait quitter le monde. L'amour-propre est son seul guide encore dans la solitude. Elle conserve une sorte de grâce, reste de sa beauté, souvenir d'avoir été aimée, qui vous fera peut-être illusion sur son véritable caractère. Mais si quelque circonstance vous mettait jamais dans sa dépendance, vous verriez si je vous ai trompé, et vous vous repentiriez de ne m'avoir pas cru. Ces observations et plusieurs autres encore que Madame de Serlèbe me présentait avec beaucoup d'esprit et de chaleur, m'auraient peut-être fait impression si Madame de Ternant n'eût pas été la tante de Léonce. Mais quel défaut pourrait l'emporter sur ce regard, sur ce son de voix qui me le rappelle? J'ai persisté dans mon dessein, et je suis établie ici depuis hier. Pauvre Monsieur de Valorbe, que je voudrais diminuer son malheur! Pourrais-je, sans l'offenser, lui offrir la moitié de ma fortune? Enfin, ma chère Louise, que votre cœur imagine ce qui pourrait adoucir sa situation. Mais je ne puis me résoudre à le voir. Les témoignages de son amour me seraient trop pénibles loin de Léonce. Je ne sais par quelle bizarrerie cruelle on craint toujours d'être plus aimé par l'homme qu'on n'aime pas que par celui qu'on préfère. Il vaut mieux n'entendre aucune expression de tendresse et que tout se taise quand Léonce ne parle pas. Lettre 9. Madame de Mondeville, mère de Léonce, à Madame de Ternant, sa sœur. Madrid, ce 17 janvier 1792. Vous m'apprenez, ma chère sœur, que Madame d'Albémar est près de chez vous. Mon fils ne le sait pas. Gardez bien ce secret. Léonce a toujours la tête tournée d'elle, et dans un moment où les indignes lois françaises vont permettre le divorce, j'éprouve une crainte mortelle qu'il ne se déshonore en abandonnant Mathilde pour cette Delphine, dont la séduction est à ce qu'il paraît véritablement redoutable. Ne pourriez-vous pas prendre assez d'empire sur son esprit pour l'engager à se marier avec un de ses adorateurs? Je ne pourrai jamais ramener la raison de mon fils s'il n'a pas à se plaindre d'elle. Je n'ai pas d'idée fixe sur cette femme, qui me paraît, d'après tout ce que j'entends dire, un être tout à fait extraordinaire. Mais je serais désolée quand même mon fils serait libre qu'il devint son époux. On ne peut jamais soumettre ces esprits qu'on appelle supérieurs aux convenances de la vie. Il faut supporter qu'ils vous donnent un jugement nouveau sur tout et qu'ils vous développent des principes à eux qu'ils appellent de la raison. Cette manière d'être me paraît à moi souverainement absurde, particulièrement dans une femme. Notre conduite est tracée. Notre naissance nous marque notre place. Notre état nous impose nos opinions. Que faire donc de cet esprit d'examen qui perd toutes les têtes? La morale et la fierté sont très anciennes. La religion et la noblesse le sont aussi. Je ne vois pas bien ce qu'on veut faire des idées nouvelles, et je ne me soucie pas du tout qu'une femme qui les aime exerce de l'empire sur mon fils. Je vous prie donc instamment, ma sœur, puisque le hasard met Madame d'Albémare dans votre dépendance, d'employer tout votre esprit à la séparer sans retour de Léonce. Comment vous trouvez-vous de votre établissement en Suisse? Ne vous en lassez-vous point? Et ne penserez-vous pas à venir dans un couvent en Espagne pour me donner la douceur de finir mes jours auprès de vous? Lettre 10. Réponse de Madame de Ternant à sa sœur, Madame de Mondeville. De l'abbaye du Paradis, ce 30 janvier 1792. Je vois bien, ma sœur, que vous n'avez jamais vu Madame d'Albémare. Il se mêlerait à votre opinion, juste à quelques égards, un goût qu'il est impossible de ne pas ressentir pour elle. La facilité de son caractère et la grâce de son esprit sont très séduisantes. Sa figure a une expression de sensibilité si naturelle, si aimable, que les caractères les plus froids s'y laissent prendre. Moi, qui suis assurément bien revenu de toute espèce d'illusion, j'ai de l'attrait pour Delphine. Mais soyez tranquille sur cet attrait. Loin de nuire à vos projets, il y servira. Je veux la déterminer à se faire religieuse dans mon couvent, et je crois que j'y parviendrai. Elle a beaucoup de mélancolie dans le caractère, un profond sentiment pour votre fils, et assez de vertu pour ne pas vouloir y céder. Dans cette situation, que peut-elle faire de mieux que d'embrasser notre état? Comment pourrais-je d'ailleurs être assurée de la garder près de moi si elle ne le prenait pas? Elle me quitterait nécessairement une fois, et ce serait, pour moi, une véritable peine. J'avais pris assez d'humeur contre toutes les affections depuis que je ne peux plus en inspirer. Delphine est néanmoins parvenue à m'intéresser. N'imaginez pas cependant que je me laisse dominer par ce sentiment. Je le ferai servir à mon bonheur. L'on ne fait pas de faute quand on n'a plus d'espérance, car on ne hasarde plus rien. Je tiens beaucoup à conserver Delphine auprès de moi. Et comme je ne puis m'en flatter qu'en la liant à notre communauté d'une manière indissoluble, j'y ferai tout ce qu'il me sera possible. C'est seconder vos vues. Et de plus, je ne pense pas qu'on puisse m'accuser de personnalité dans ce dessein. Qu'arrivera-t-il à Delphine en restant au milieu du monde? Ce que j'ai éprouvé, ce que toutes les belles femmes sont destinées à souffrir, elle se verra, par degrés, abandonnée. Elle verra l'admiration qu'elle inspire se changer en pitié, et des sentiments commandés prendre la place des sentiments involontaires. Hier, je parlais sur divers sujets avec assez de tristesse. Vous savez que c'est en général à présent ma manière de sentir. Delphine m'écoutait avec l'intérêt le plus aimable. Je lui dis je ne sais quel mot qui apparemment la toucha, car tout à coup je la vis presque à genoux devant moi, me conjurer de l'aimer et de la protéger dans la vie. Le hasard avait donné dans ce moment à sa figure une grâce nouvelle. Elle était penchée d'une manière qui ajoutait encore à la beauté de sa taille. Sa robe s'était drapée comme un peintre l'aurait souhaité, et ses beaux cheveux, en tombant, avaient paré son visage du charme le plus attrayant. Vous l'avouerai-je, je me rappelais dans ce moment que moi aussi j'avais été belle, et cette pensée m'absorba tout entière. Je ne me sentis cependant aucun mouvement d'envie contre Delphine, et je désirais même plus vivement encore de la retenir auprès de moi. Elle me rend quelques-uns des plaisirs que j'ai perdus. Elle me donne des témoignages d'amitié que je n'ai reçus que quand j'étais jeune. Elle me joue des airs qui me plaisent. Elle est malheureuse, quoique jeune et belle. Cela console d'être vieille et triste. Il faut qu'elle reste près de moi. Pourquoi la détournerais-je de se fixer ici? Pourquoi ferais-je ce sacrifice? Les sacrifices conviennent aux jeunes gens. Ils sont entourés d'amis qui prennent parti pour eux contre eux-mêmes. Mais quand on est vieille, tant de gens trouvent simple que l'on se dévoue, tant de gens l'exigent de vous, que, par un mouvement assez naturel, on est tenté de se faire une existence d'égoïsme, puisqu'on ne vous tient plus compte de l'oubli de vous-même. Il est des qualités qu'il n'est doux d'exercer que quand les autres s'y opposent. Et croyez-moi, ma sœur, à 50 ans, personne ne nous aime autant que nous nous aimons nous-mêmes. Vous êtes bonne de me proposer de revenir près de vous. Mais nous nous rappellerions notre jeunesse ensemble, et cela fait trop de mal. J'aime mieux vivre ici, où personne ne m'a connue que telle que je suis. Je m'intéresse à vous, à votre famille. Je vous servirai dans toutes les circonstances, mais je mourrai dans le couvent où je suis. J'ai vu quelque part dans les nuits d'Jung qu'il faut que la vieillesse se promène silencieusement sur le bord solennel du vaste océan qu'elle doit bientôt traverser. Cela m'a frappée. J'étais bien légère autrefois. À présent, je n'aime que les idées sombres. Je voudrais me persuader que la vie ne vaut rien pour personne et qu'après moi, l'amour, la beauté, la jeunesse sont finis. Vous n'avez pas ces mouvements de tristesse, ma sœur. Votre passion pour votre fils vous en a préservé. Vous savez que le mien m'a abandonné de très bonne heure. Je n'ai pu retenir aucune affection autour de moi. Cependant, j'en avais besoin. Mais quand je les ai vus s'éloigner, un sentiment de fierté très impérieux m'a empêché de rien faire pour les rappeler. Je me suis tracé une vie qui convient assez à mon caractère. L'extrême sévérité que j'ai établie parmi les religieuses chanoinesses qui me sont subordonnées donne beaucoup de considération à l'abbaye que je gouverne. Et vous l'avez remarqué comme moi, la considération est la seule jouissance des femmes dans leur vieillesse. Je ne pourrais pas facilement transporter en Espagne l'existence dont je jouis ici. Il me faudrait plusieurs années pour préparer ce que je recueille maintenant. Je ne dois donc pas songer à me réunir à vous. Mais comptez toujours sur moi, comme sur une sœur dévouée à tous vos intérêts et qui partage la plupart de vos opinions par goût et par sympathie. Lettre 11. Delphine à Mademoiselle d'Albémar, de l'abbaye du Paradis, ce 2 février. Je ne vous ai point écrit depuis près d'un mois. J'ai voulu essayer si la vie uniforme que je mène me donnerait enfin du calme, et si, en m'interdisant de parler même à vous des sentiments que j'éprouve, je finirais par en être moins troublée. Hélas, tous ces sacrifices ne me réussissent point. Une seule résolution pourrait plus que tant d'efforts. Si je partais, si je revoyais Léonce. Insensé que je suis. Ah, c'est pour n'avoir plus ces pensées agitantes qu'il faudrait s'enchaîner ici. Madame de Ternant aurait envie de me garder pour toujours auprès d'elle. Je suis sensible à ce désir, mais je ne sais pourquoi, le plaisir même qu'elle trouve à me voir ne me persuade pas qu'elle m'aime. Je crains qu'il n'entre peu d'affection dans le besoin qu'elle peut avoir des autres. elle discerne parfaitement les personnes qui lui conviennent et souhaite de les captiver. Mais il semble qu'elle emploierait le même accent pour s'assurer d'une maison qui lui plairait que pour retenir un ami. Elle exerce, malgré ses défauts, un grand empire sur ce qui l'entoure. Il y a, dans ses manières, une dignité qui impose et fait mettre beaucoup de prix à ses moindres expressions de confiance et de familiarité. Je crois, cependant, que sa ressemblance avec Léonce est la principale cause de son ascendant sur moi. Car pour peu qu'on pénètre jusqu'au fond de son âme, on y trouve je ne sais quoi d'aride qui refroidit le cœur plus disposé à s'attacher. Hier, par exemple, j'avais joué sur ma harpe des airs qu'elle avait entendus autrefois, et ma conversation l'intéressait. Elle me dit un mot assez mélancolique, qui m'encouragea à lui demander quels avaient été les motifs de sa retraite dans un couvent. Elle hésita quelques moments, et d'un ton très réservé, elle me tint d'abord les discours convenables à son état. Cependant, comme je la pressais davantage et que j'osais lui parler de sa beauté passée, « Eh bien, me dit-elle, puisque vous vous intéressez à moi, je vous donnerai quelques lignes que j'avais écrites, non pour raconter ma vie, car selon moi l'histoire de toutes les femmes se ressemble, mais pour me rendre compte des motifs qui m'ont déterminée au parti que j'ai pris. Cela n'est pas achevé parce qu'on ne finit jamais ce qu'on écrit pour soi, mais il y en a assez pour satisfaire votre curiosité et pour vous prouver ma confiance. Je vous envoie, ma sœur, ce que Madame de Ternan m'a remis. Il y règne une impression de tristesse qui, d'abord, pourrait toucher, mais en y réfléchissant, on trouve dans cette tristesse bien plus d'amour-propre que de sensibilité. Vous me direz l'impression que ce singulier écrit aura produite sur vous. Raisons qui ont déterminé Léontine de Ternan à se faire religieuse. J'ai été fort belle et j'ai 50 ans. De ces deux événements fort ordinaires naissent toutes les impressions que j'ai éprouvées. Je ne sais pas si j'ai eu moins de raison qu'une autre ou seulement un esprit plus observateur, plus pénétrant et qui n'était pas susceptible de se conserver à lui-même des illusions. Ce que je sais, c'est qu'en perdant ma jeunesse, je n'ai rien trouvé dans le monde qui pût remplir ma vie, et que je me suis sentie forcée à le quitter, parce que tous les liens qui m'y attachaient se sont relâchés comme d'eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il ne m'en soit plus resté un seul que je puisse véritablement regretter. J'avais de l'esprit, j'en ai peut-être encore, mais on en peut difficilement juger, car cet esprit se développait singulièrement par ma confiance dans ma figure. J'avais de l'imagination et beaucoup de gaieté. Je comptais d'une manière piquante, j'avais de l'humeur avec grâce, et sûr de l'attrait que tout le monde, en me voyant, ressentait pour moi, j'éprouvais un désir animé de plaire et une douce certitude d'y réussir. Cette certitude m'inspirait une foule d'idées et d'expressions que je n'ai jamais pu retrouver depuis. J'avais épousé un homme bon et raisonnable, qui m'aimait à la folie. Je lui fus fidèle, plus encore je l'avouerai par fierté que par vertu. Je voulais être soignée, suivie, adorée, et je ne voulais pas accorder à un seul homme la préférence qui était l'objet de l'ambition de tous. Je n'eus donc pas de tort envers mon mari, mais je fus peu occupée de lui, et par degrés, il prit habitude de s'intéresser vivement aux affaires et de se distraire des sentiments qu'il avait absorbés pendant quelques années. J'eus deux enfants, un fils et une fille. Je les ai rendus fort heureux dans leur enfance. J'ai soigné leurs plaisirs, je leur ai donné tous les maîtres qui avaient le plus de réputation. Et j'ai joui de leur tendresse jusqu'à ce que l'un eût atteint 18 ans et l'autre 16. C'est vers cette époque que commence la nouvelle perspective de ma vie, celle qui, se rembrunissant de plus en plus, s'est enfin terminée par le genre de vie que je mène ici, et qui ressemble autant qu'il se peut à la mort. Ma figure se conserva assez tard. Néanmoins, depuis l'âge de 30 ans, j'avais commencé à réfléchir sur le petit nombre d'années dont il me restait à jouir. Je m'étonnais d'une impression qui m'était tout à fait nouvelle. Je craignais l'avenir au lieu de le désirer. Je ne faisais plus de projets. Je retenais les jours au lieu de les hâter. Je voulus devenir plus soigneuse pour mes amis. Ils s'en étonnèrent et ne m'en aimèrent pas davantage. Je repris mes caprices, mon inconséquence. On n'y était plus préparé. Et sans que personne autour de moi se rendit compte d'aucun changement dans la nature de ses affections, je voyais déjà des différences dont personne que moi ne se doutait encore. Il me vint à l'idée de faire des liaisons nouvelles. Il me semblait qu'elles ranimeraient mon esprit et ma vie. Mais je n'avais pas en moi la faculté d'aimer ceux que je n'avais point connus dans les premières années de ma jeunesse. Et quoique ma sensibilité n'eût peut-être jamais été très profonde, il y avait pourtant une distance infinie entre ces affections que je commandais et les affections involontaires qui avaient décidé mes premières amitiés. Je répétais ce que j'avais dit autrefois avec une sorte d'exactitude pour voir si je produirais le même effet. Je croyais rencontrer des caractères différents, des situations entièrement changées, tandis que tout était de même, excepté moi. J'avais perdu, non pas encore les charmes de la jeunesse, mais cette espérance vive, indéfinie, entraînant avec elle tous ceux qui s'unissent confusément aux nombreuses chances d'un long avenir. Aucune de mes liaisons ne tenait, rien ne s'arrangeait de soi-même. Toutes mes relations étaient, pour ainsi dire, faites à la main et demandaient des soins continuels. J'en faisais trop, trop peu pour les autres. Je n'avais plus de mesure sur rien parce qu'il n'y avait point d'accord entre mes désirs et mes moyens. Enfin, après 7 ou 8 ans de ces vains efforts pour obtenir de la vie ce qu'elle ne pouvait plus me donner, je m'aperçus un jour que j'étais sensiblement changée, et je passais tout un bal sans qu'aucun homme m'adressât des compliments sur ma figure. On commença même à me parler, avec ménagement, des femmes jeunes et belles, et à ramener devant moi la conversation sur des sujets d'un genre plus grave. Je sentis que tout était dit. Les autres étaient enfin arrivés à découvrir ce que je prévoyais. Il ne fallait plus lutter, et j'étais trop fière pour m'attacher à quelque faible succès que des efforts soutenus pouvaient encore faire naître. Je n'étais cependant alors qu'à la moitié de la carrière que la nature nous destine, et je ne voyais plus un avenir, ni une espérance, ni un but qui pût me concerner moi-même. Un homme, à l'âge que j'avais alors, eût pu commencer une carrière nouvelle. Jusqu'à la dernière année de la plus longue vie, un homme peut espérer une occasion de gloire, et la gloire, c'est comme l'amour, une illusion délicieuse, un bonheur qui ne se compose pas, comme tous ceux que la simple raison nous offre, de sacrifices et d'efforts. Mais les femmes, grand Dieu, les femmes, que leur destinée est triste, à la moitié de leur vie, il ne leur reste plus que des jours insipides, pâlissant d'année en année, des jours aussi monotones que la vie matérielle, aussi douloureux que l'existence morale. Et vos enfants, me dira-t-on, vos enfants? La nature prodigue envers la jeunesse nous a réservé les plus doux plaisirs de la maternité pour l'époque de la vie qui permet encore les plus heureuses jouissances de l'amour. Nous sommes le premier objet de l'affection de nos enfants à l'âge où nous pouvons l'être encore de l'époux, de l'amant qui nous préfère, Mais quand notre jeunesse finit, celle de nos enfants commence, et tout l'attrait de l'existence nous les enlève, au moment même où nous aurions le plus besoin de nous reposer sur leurs sentiments. J'essayais de revenir à mon mari. Il était bien pour moi. Mais quand je voulais lui redemander ses soins, cet intérêt suivi, cet amour enfin que je lui inspirais 20 ans plus tôt, il ne me le refusait pas, mais il en avait aussi complètement perdu le souvenir que des jeux les plus frivoles de son enfance. Cependant, quel plaisir peut-on trouver dans la société d'un homme à qui vous n'êtes pas essentiellement nécessaire, qui pourrait vivre sans vous comme avec vous, et prend à votre existence un intérêt plus faible que celui que vous y prenez vous-même. Quand les autres ne s'occupent plus naturellement de vous, on est assez tenté de devenir exigeante et de reprendre par ses défauts une sorte d'empire qu'on ne peut plus espérer de ses grâces. Moins j'inspirais d'amour, plus j'aurais voulu que mes enfants eussent dans leur affection pour moi cet entraînement et ce culte qui m'avait rendu si cher les hommages dont je m'étais vu l'objet. Moins je trouvais dans le monde d'intérêt et de plaisir, plus j'avais besoin d'une société continuelle et douce dans mon intérieur. Mais plus un sentiment, un plaisir, un but quelconque nous devient nécessaire, plus il est difficile de l'obtenir. La nature et la société suivent cette maxime connue de l'Évangile. Elles donnent à ceux qui ont, mais ceux qui perdent éprouvent une contagion de peine qui se succède rapidement et naissent les unes des autres. Je voulus essayer de m'occuper, mais aucun intérêt ne m'y excitait. Mes enfants étaient élevés, mon mari occupé des affaires et accoutumé à moi, de telle sorte que je ne pouvais plus rien changer à nos relations. Quel motif me restait-il donc pour une action quelconque? Tout était égal et je passais des heures entières dans l'incertitude sur les plus simples actions de la vie parce qu'il n'y en avait aucune qui me fût plus commandée, plus agréable ou plus utile que l'autre. Mon mari mourut. Et quoique nous ne fussions pas très tendrement ensemble, je sentis cependant que sa perte ôtait à mon existence son reste de charme et de considération. Mes enfants étaient établis, l'un en Espagne, l'autre en Hollande. Il n'y avait plus aucune relation nécessaire entre personne et moi. Quand on est jeune, les liens de parenté importunent, et l'on ne veut s'environner que de ceux que l'attrait réciproque rassemble autour de nous. Mais quand on est vieille, on souhaiterait qu'il n'y eût plus rien d'arbitraire dans la vie. On voudrait que les sentiments et les liens qui en résultent fussent commandés à l'avance. On ne fonde aucun espoir sur le hasard ni sur le choix. Je ne pouvais plus concevoir comment il me serait possible de filer cette multitude de jours qui m'étaient peut-être réservés encore, et pour lesquels je ne prévoyais ni un intérêt, ni une variété, ni un plaisir, rien qu'un murmure frivole d'idées insipides, qui ne m'endormirait pas même doucement jusqu'au tombeau. L'amour-propre a nécessairement beaucoup d'influence sur le bonheur des femmes. Comme elles n'ont pas d'affaires, point d'occupation forcée, elles fixent leur attention sur ce qui les concerne, et détaille, pour ainsi dire, la vie qui vaut encore mieux par les grandes masses que par les observations journalières. J'éprouvais donc une sorte d'agitation intérieure très pénible. Je remarquais tout, je me blessais de tout, je ne jouissais de rien. J'avais un fond de douleur qui se faisait toujours sentir, ajoutait à mes peines et retranchait de mes plaisirs. Et dans les meilleurs moments même, l'affadissement de ma vie me gagnait chaque jour davantage. Enfin, une fois, j'allai voir une religieuse de mes amies, qui jouissait d'un calme parfait. Elle me persuada facilement d'embrasser son état. Que perdais-je, en effet? N'étais-je pas déjà sous l'empire de la mort? Elle commence la mort à la première affection qui s'éteint, au premier sentiment qui se refroidit, au premier charme qui disparaît. Ces signes avant-coureurs se marquent tous à l'avance sur nos traits. L'on se voit privé, par degrés, des moyens d'exprimer ce que l'on sent. L'âme perd son interprète, les yeux ne peignent plus ce qu'on éprouve, et les impressions de notre cœur, comme renfermées au-dedans de nous-mêmes, n'ont plus ni regard ni physionomie pour se faire entendre des autres. Il faut alors mener une vie grave et porter sur un visage abattu cette tristesse de l'âge, tribut que la vieillesse doit à la nature qui l'opprime. On parle souvent de la timidité de la jeunesse. Qu'il est doux ce sentiment. Ce sont les inquiétudes de l'espérance qui le causent. Mais la timidité de la vieillesse est la sensation la plus amère dont je puisse me faire l'idée. Elle se compose de tout ce qu'on peut éprouver de plus cruel, la souffrance qui ne se flatte plus d'inspirer l'intérêt et la fierté qui craint de s'exposer au ridicule. Cette fierté, pour ainsi dire négative, n'a d'autre objet que d'éviter toute occasion de se montrer. On sent confusément presque de la honte d'exister encore, quand votre place est déjà prise dans le monde, et que, surnuméraire de la vie, vous vous trouvez au milieu de ceux qui la dirigent et la possèdent dans toute sa force. Je désirais que la maison religieuse où je voulais me fixer fût loin de Paris. Le bruit du monde fait mal, même dans la solitude la plus heureuse. On m'indiqua une abbaye à quelques lieues de Zurich. J'y vins il y a 3 ans, et depuis ce temps, je dérobe du moins au regard le spectacle lent et cruel de la destruction de l'âge. J'ai pris une manière de vivre qui, loin de combattre ma tristesse, la consacre, pour ainsi dire, comme l'unique occupation de ma vie. Mais c'est une assez douce société que la tristesse, dès que l'on n'essaie plus de s'en distraire. Enfin, que puis-je dire de plus? J'avais à vivre, voilà ce que j'ai essayé pour m'en tirer. Lettre 12. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. De l'abbaye du Paradis, ce 6 février. Une crainte mortelle, ma chère Louise, est venue troubler le peu de calme dont je jouissais. Un mot, échappé à Madame de Ternant, me fit croire que la mère de Léonce lui a mandé que son fils se livrait vivement au projet de prendre parti dans la guerre dont la France est menacée. Je sais bien qu'à présent il ne s'éloignera pas de Mathilde, mais il peut contracter de tels engagements à l'avance qu'il n'existe plus aucun moyen de les détourner de les remplir. Je ne vois auprès de lui que M. de Lébancey qui puisse mettre un vif intérêt à combattre ce funeste dessein, et je lui écris pour l'en conjurer. Envoyez ma lettre à M. de Lébancey, ma sœur, sans lui faire connaître d'aucune manière dans quel lieu je suis. Cette lettre peut prévenir le malheur que je redoute. C'est assez vous la recommander. Lettre 13. Madame d'Albémar à M. de Lébancey. Je vous conjure de nouveau, vous qui m'avez comblé des plus touchantes preuves de votre amitié, d'employer toutes les armes que vous donne votre manière de penser et de vous exprimer pour empêcher Léonce de quitter la France et de se joindre au parti qui veut faire la guerre avec l'armée des étrangers. Vous savez, comme moi, quels sont les scrupules d'honneur, les sentiments chevaleresques qui pourraient entraîner Léonce dans cette funeste résolution. Combattez-les en les ménageant. Servez-vous de mon nom si vous croyez qu'il puisse ajouter quelque force à ce que vous direz. Cachez pourtant à Léonce que du fond de ma retraite, vous avez reçu une lettre de moi. Il vous demanderait peut-être de la voir. Il voudrait y répondre lui-même et renouvellerait en m'écrivant une lutte que je n'ai plus la force de supporter. Mais si jamais je vous ai inspiré quelque intérêt ou quelque pitié, faites au nom du ciel que dans le séjour où j'ai enseveli ma destinée, je ne sois pas tout à coup arraché par de nouvelles craintes au triste repos d'un malheur sans espoir. Lettre 14. Monsieur de Lépensée à Monsieur de Mondeville. Cernay, ce 18 février 1792. Souffrez, mon ami, que je me hasarde à pénétrer dans vos secrets, plus avant encore que vous ne me l'avez permis. J'ai remarqué pendant le peu de jours que je suis resté dans votre maison à Paris, l'effet que l'on produisait sur vous en vous racontant que les nobles sortis de France depuis quelques mois pensent et disent qu'il est honteux pour les personnes de leur classe de ne pas se joindre à eux lorsqu'ils font la guerre pour rétablir l'autorité royale et leurs droits personnels. Vous ne m'avez point parlé de votre projet à cet égard. Ma manière de penser en politique vous en a peut-être détourné. Vous avez même voulu contenir devant moi l'impression que vous receviez en apprenant quelle était sur ce sujet l'opinion de presque tous les gentilshommes. Mais je crains que vous ne cédiez à l'empire de cette opinion maintenant que vous êtes séparé de la céleste amie qui l'aurait combattue. Avant de discuter avec vous les motifs de la guerre qui doit, dit-on, cette année éclater contre la France, le 18 février 1792, date de cette lettre, était 3 mois avant le commencement de la guerre. Accordez à l'amitié le droit de vous dire ce qui vous concerne particulièrement. Ce n'est point, je le sais, votre conviction personnelle qui vous anime dans cette cause. Vous ne voulez, en politique, comme dans toutes les actions de votre vie, que suivre scrupuleusement ce que l'honneur exige de vous, et vous prenez pour arbitre de l'honneur l'approbation ou le blâme des hommes. Je suis convaincu que même dans les temps les plus calmes, il faut savoir sacrifier l'opinion présente à l'opinion à venir, et que les grandes spéculations en ce genre exigent des pertes momentanées. Mais si cela est vrai d'une manière générale, combien cela ne l'est-il pas davantage dans les circonstances où nous nous trouvons? Vous ne pouvez satisfaire maintenant que l'opinion d'un parti. Ce qui vous vaudra l'estime de l'un vous ôtera celle de l'autre. Et si quelque chose peut faire sentir la nécessité d'en appeler à soi seul, ce sont ces divisions civiles, pendant lesquelles les hommes des bords opposés plaident contradictoirement et subjectent également la morale et l'honneur. Ce n'est pas tout. L'opinion même du parti que vous choisiriez pourrait changer. Il y a dans la conduite privée des devoirs reconnus et positifs. On est toujours approuvé en les accomplissant, quelles qu'en soient les suites. Mais dans les affaires publiques, le succès est pour ainsi dire ce qu'était autrefois le jugement de Dieu. Les lumières manquent à la plupart des hommes pour décider en politique, comme elles manquaient autrefois pour prononcer en jurisprudence. Et l'on prend pour juge le succès, qui trompe sans cesse sur la vérité. Il déclare, comme autrefois, quel est celui qui a raison, par les épreuves du fer et du feu, par ces épreuves dont le hasard ou la force décident bien plus souvent que l'innocence et la vertu. Si vous acquérez de l'influence dans votre parti et qu'il soit vaincu, il vous accusera des démarches même qu'il vous aura demandées, et vous ne rencontrerez que des âmes vulgaires qui se plaindront d'avoir été entraînées par leur chef. Les hommes médiocres se tirent toujours d'affaire. Ils livrent les hommes distingués qui les ont guidés aux hommes médiocres du parti contraire. Les ennemis même se rapprochent quand ils ont l'occasion de satisfaire ensemble la plus forte des haines, celle des esprits bornés contre les esprits supérieurs. Mais au milieu de toutes ces luttes d'amour-propre, de tous ces hasards de circonstances, de toutes ces préventions de parti, quand l'un vous injurie, quand l'autre vous loue, où donc est l'opinion? À quel signe peut-on la reconnaître? Me sera-t-il permis de m'offrir à vous, pour exemple. Si j'ai bravé toutes les clameurs de la société où vous vivez, ce n'est point que je sois indifférent au suffrage public. L'homme est juge de l'homme, et malheur à celui qui n'aurait pas l'espérance que sa tombe au moins sera honorée. Mais il fallait ou suivre les fluctuations de toutes les erreurs de son temps et de son cercle, ou examiner la vérité en elle-même, et traverser, pour arriver à elle, les divers nuages que la sottise ou la méchanceté élèvent sur la route. Dans les questions politiques qui divisent maintenant la France, où est la vérité, me direz-vous? Le devoir le plus sacré pour un homme n'est-il pas de ne jamais appeler les armées étrangères dans sa patrie? L'indépendance nationale n'est-elle pas le premier des biens, puisque l'avilissement est le seul malheur irréparable? Vainement, on croit ramener les peuples par une force extérieure à de meilleures institutions politiques. Le ressort des âmes une fois brisé, le mal, le bien, tout est égal. Et vous trouvez, dans le fond des cœurs, je ne sais quelle indifférence, je ne sais quelle corruption, qui vous fait douter, au milieu d'une nation conquise et résignée à l'être, si vous vivez parmi vos semblables, ou si quelques êtres abâtardis ne sont pas venus habiter la terre que la nature avait destinée à l'homme. Ce n'est pas tout encore. Non seulement l'intervention des étrangers devrait suffire pour vous éloigner du parti qu'il admet, mais la cause même que ce parti soutient mérite-t-elle réellement votre appui? C'est un grand malheur, je le sais, que d'exister dans le temps des dissensions politiques. Les actions ni les principes d'aucun parti ne peuvent contenter un homme vertueux et raisonnable. Cependant, toutes les fois qu'une nation s'efforce d'arriver à la liberté, je puis blâmer profondément les moyens qu'elle prend, mais il me serait impossible de ne pas m'intéresser à son but. La liberté, vous l'avouerez avec moi, est le premier bonheur, la seule gloire de l'ordre social. L'histoire n'est décorée que par les vertus des peuples libres. Les seuls noms qui retentissent de siècle en siècle à toutes les âmes généreuses, ce sont les noms de ceux qui ont aimé la liberté. Nous avons en nous-mêmes une conscience pour la liberté comme pour la morale. Aucun homme n'ose avouer qu'il veut la servitude. Aucun homme n'en peut être accusé sans rougir. Et les cœurs les plus froids, si leur vie n'a point été souillée, tressaillent encore lorsqu'ils voient en Angleterre les touchants exemples du respect des lois pour l'homme et des hommes pour la loi. Lorsqu'ils entendent le noble langage qu'ont prêté Corneille et Voltaire aux ombres sublimes des Romains. Cette belle cause que, de tout temps, le génie et les vertus ont plaidée est, j'en conviens, à beaucoup d'égards, mal défendue parmi nous. Mais enfin, l'espérance de la liberté ne peut naître que des principes de la Révolution, et se ranger dans le parti qui veut la renverser, c'est courir le risque de prêter son secours à des événements qui étoufferaient toutes les idées que, depuis 4 siècles, les esprits éclairés ont travaillé à recueillir. Il y a dans le parti que vous voulez servir des hommes qui, comme vous, ne désirent rien que d'honorable. Mais dans les temps où les passions politiques sont agitées, chaque faction est poussée jusqu'à l'extrême des opinions qu'elle soutient. Et tel qui commence la guerre dans le seul but de rétablir l'ordre, entend bientôt dire autour de lui qu'il n'y a de repos que dans l'esclavage, de sûreté que dans le despotisme, de morale que dans les préjugés, de religion que dans telle secte, et se trouve entraîné, soit qu'il résiste, soit qu'il cède, fort au-delà du but qu'il s'était proposé. Laissez donc, mon cher Léonce, se terminer sans vous ce grand débat du monde. Il n'y a point encore de nation en France. Il faut de longs malheurs pour former dans ce pays un esprit public qui trace à l'homme courageux sa route et lui présente au moins les suffrages de l'opinion pour dédommagement des revers de la fortune. Maintenant, il y a parmi nous si peu d'élévation dans l'âme et de justesse dans l'esprit, qu'on ne peut espérer d'autre sort dans la carrière politique que du blâme sans pitié si l'on est malheureux, et si l'on est puissant, de l'obéissance sans estime. À tous ces motifs, qui, je l'espère, agiront sur votre esprit, laissez-moi joindre encore le plus sacré de tous, votre sentiment pour Madame d'Albuymar. Son dernier vœu, sa dernière prière en partant, fut pour me conjurer de vous détourner d'une guerre que ses opinions et ses sentiments lui faisaient également redouter. Ce que je vous demande en son nom, peut-il m'être refusé? Je sais que vous ne répondrez point à cette lettre. Vous voulez envelopper du plus profond silence vos projets, quels qu'ils soient. On n'aime point à discuter le secret de son caractère. Je me soumets à votre silence, mais j'ose espérer que je produirai sur vous quelque impression. Je me flatte aussi que vous pardonnerez à mon amitié de vous avoir parlé avec franchise, sans y avoir été appelé par votre confiance. J'ai écrit à Moulins, comme vous le désiriez, pour savoir ce qu'est devenu monsieur de Malorbe. On m'a répondu qu'on l'ignorait, mais éloignez de votre esprit l'idée qui l'a troublé. Monsieur de Valorbe ne sait pas où est Madame d'Albuymar. Il est sûrement l'homme du monde à qui elle a caché le plus soigneusement le lieu de sa retraite.